Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Pascal Marcaggi.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la luzerne. Diable, pourquoi vous parler de luzerne, déshydratée de surcroît, non pas parce qu'il pleut, encore que, mais parce que nous, vous buvez bien sûr du lait de vache, beaucoup de lait de vache, sous une forme ou sous une autre. Or, pour faire du lait de vache, c'est une évidence. Une vache laitière qui pèse entre 600 et 700 kilos, 100 kilos de moins qu'une vache à viande, mais quand même, eh bien a besoin de manger, mais pas n'importe quoi. Philippe Etienne, le nouveau président de la coopérative de déshydratation Copedom.
La valorisation d'une luzerne, en termes de longueur de brin, sur 2 à 3 cm, c'est l'optimum. Après, si on prend des longueurs beaucoup plus longues, on a des problèmes, de ce qu'on appelle nous, d'encombrement de ration. Parce que si on se retrouve avec un fourrage trop long, la vache laitière est finie par le rejeter, ne pas le consommer. On le retrouve soit à l'auge ou au champ. Donc, quel est l'intérêt de valoriser un fourrage de qualité s'il n'est pas consommé par l'animal ?
Les brins de luzerne sont idéalement finement découpés entre 2 et 3 cm. Les graminées, eux, mesurent entre 2 et 3 mm. Petit tour par le premier département laitier de France, l'Ille-et-Vilaine. Car ici, à Domagné, près de Vitré, et depuis 1969, la coopérative de déshydratation de luzerne et ses 700 producteurs laitiers adhérents travaillent en circuit très court. Philippe Etienne.
On a certains de nos adhérents aujourd'hui qui sont autonomes à 100% pour la production du lait. Il faut être visionnaire. Moi, j'ai une vision assez précise. Je me dis que si on veut être présent encore sur nos territoires à produire notre lait, il va falloir absolument qu'on apprenne ou qu'on réapprenne à devenir autosuffisant en alimentation de nos fourrages. Et la luzerne est le levier pour y accéder. En plus, il y a une traçabilité qui va avec et qui est demandée par nos adhérents. C'est une exigence qu'ils ont vis-à-vis de ça. Donc, cette exigence, on essaye de la remplir au maximum en termes de qualité, en termes de service et en termes de coût, c'est-à-dire une prestation qu'on leur offre avec un prix maîtrisé.
700 petites structures, une quarantaine de vaches chacune en moyenne, des structures encore familiales mais de plus en plus sous forme de société. Joseph Lebrun, il a présidé la coopérative Copedom pendant 30 ans. Ce fils d'éleveur passe aujourd'hui la main à son propre fils.
Je suis producteur de lait et j'utilise de la luzerne pour nourrir mes animaux. J'ai 55 vaches laitières et je suis en GAEC avec un associé. J'ai un fils qui va s'installer à l'automne. Il va reprendre progressivement mes parts dans l'exploitation. Moyenne petite maintenant, parce que les exploitations, malgré tout, s'agrandissent quand même régulièrement. On trouve de plus en plus d'exploitations sociétales en GAEC, à 2, 3, pour des raisons de confort dans le travail, parce que l'élevage, c'est quand même très astreignant. Si vous êtes tout seul sur votre exploitation, ça ressemble un peu à de l'esclavage.
Le fils de Joseph Lebrun ne connaîtra pas le casse-tête de la conservation de la luzerne qu'a connu ses grands-parents, car l'ennemi de la conservation de la luzerne, c'est l'humidité. La luzerne déshydratée permet de la conserver.
Oui, moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la luzerne. Mon père en faisait autrefois, mais de façon un peu anecdotique. Le problème de la luzerne du temps de mes parents et grands-parents, c'était la récolte. Quand il en donnait en verre aux animaux, c'est-à-dire qu'il en coupait avec les moyens de l'époque, pour la distribuer fraîche aux animaux, pour la conserver, la meilleure méthode, c'est donc la déshydratation. Parce que si vous le mettez en foin ou en ensilage, vous avez énormément de pertes. La valeur protéique est dans les feuilles, et en foin et en ensilage, ça pose problème.
La déshydratation naturelle permet de garder aussi toutes les propriétés nutritives de la luzerne.
C'est pour ça que la coopérative a été créée en 1969 et très rapidement j'ai adhéré, mon père d'abord et puis moi après, on a adhéré à la déshydratation parce qu'on avait vraiment un produit d'excellente qualité. Quand vous récoltez la luzerne en déshydratation, il n'y a pas de fermentation et la qualité que vous avez dans le champ est la même à la sortie du sécheur de déshydratation. Parce que la plante, elle meurt instantanément et elle ne consomme pas son énergie pour sécher. Parce qu'une plante qui sèche au champ perd de son humidité, elle consomme son énergie, donc elle consomme des sucres solubles, donc perte de valeur alimentaire pour les animaux. Donc avec la déshydratation, on n'a pas ce processus de dégradation des cellules par une mort naturelle. Ça permet d'avoir des produits d'excellente qualité et par là même d'avoir plus d'énergie et plus de protéines hectares récoltées avec la déshydratation qu'avec un mode de conservation en ensilage ou en foin.
Donc en propre, on a 8 camions. Après, en termes de transport, on fait appel à un prestataire de services extérieurs pour faire les appointements, c'est-à-dire quand il y a des volumes exceptionnels, on fait appel à des prestataires de services. En termes de faucheuses, comme vous avez devant vous, là, on en a 3. 3 en service en permanence. Des ordaineurs, on en a également 3. Donc généralement, ça forme 2 équipes. Dans chaque équipe, il y a une faucheuse, un ordaineur, une récolteuse et 3 à 4 camions.
Contrairement à ce que l'on pense, si on les traite bien, les vaches ne sont pas folles. Quand elles ont le choix, les vaches mangent le meilleur. C'est l'autre casse-tête résolu par la luzerne déshydratée, les fameux 2 à 3 cm. Les vaches assimilent parfaitement les feuilles de la luzerne, ce qui tombe bien, car ce sont les feuilles qui contiennent les protéines. En revanche, elles ruminent à l'infini les tiges qui ne leur conviennent pas du tout car elles contiennent de la lignite, du bois déjà. Or, le temps que passe une vache à ruminer les tiges, qu'ils leur reviennent rejetées par leur premier estomac, eh bien, elles le perdent en quelque sorte en fabrication de lait, puisque pendant ce temps-là, elles n'ont pas faim et ne mangent donc pas les feuilles qui vont leur profiter. Voilà, le quadrupède apte, quand même, à transformer l'herbe en lait est une superbe mécanique. Quand on lui donne de bonnes protéines, elle produit du lait en conséquence, et inversement, c'est là tout l'intérêt de la luzerne. La luzerne est la légumineuse qui contient le plus de protéines et que l'on peut cultiver chez soi, surtout quand les Chinois se font de plus en plus gourmands en viande. Éric Guillemot, directeur de Coop de France Déshydratation.
Alors, la luzerne est une légumineuse, a un rendement dans la région de Domagné de l'ordre de 12 tonnes en moyenne, avec des écarts, il y a des gens qui vont avec des rendements beaucoup plus élevés. Le taux moyen sur les 4 coupes réalisées est de l'ordre de 19 à 20% de protéines, ce qui fait au total qu'un hectare va produire environ 2400 à 2500 kg de protéines à l'hectare. C'est la plante championne du monde en termes de production de protéines à l'hectare, et notamment si on le compare au soja sud-américain essentiellement, qui fait environ 860 kg de protéines à l'hectare. Cet élément est quand même un élément fondamental dans le débat sur le déficit en protéines de l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne importe 75% de ses besoins en protéines végétales pour l'alimentation des animaux. Et aujourd'hui, on a un gros stress sur le marché mondial. Il y a une sécheresse chez les producteurs. Et surtout, les Chinois ont décidé de manger de la viande et ça ne changera pas. Et du coup, ils jouent les rappe-tout sur le marché mondial des protéines, ce qui pose quand même un problème et un risque pour nos éleveurs européens. Nous sommes véritablement en situation de risque pour l'approvisionnement. Ça nécessite quand même une orientation politique, ça c'est le domaine des hommes politiques et de la PAC. Je crois que le débat, il est bien entendu et j'espère qu'à travers les nouvelles orientations de la PAC, on va quand même pouvoir répondre à ce problème qui est un problème récurrent depuis l'embargo du soja en 1973. On n'a pas évolué.
L'Europe importe donc aujourd'hui 75% du fourrage dont elle a besoin. La luzerne, déshydratée de surcroît, qui permet de conserver les feuilles donc, et ce au calibre idéal pour les vaches, apparaît à nouveau comme le meilleur des fourrages à demeure contre les tourteaux de soja moins riches en protéines du Brésil. Autre atout et non des moindres, environnemental celui-là, la luzerne capte l'azote des nitrates, empêchant ainsi son ruissellement dans les eaux et ne nécessite non plus aucun apport d'engrais azotés, des atouts plutôt séduisants côté breton. Mais au fait, que s'est-il passé en 1973, Éric Guillemot ?
Alors en 73, la récolte de soja aux États-Unis, qui est le principal pays producteur de soja à l'époque, est absolument pas bonne du tout. Et donc le président Nixon dit, dans ces conditions, le soja américain pour les éleveurs américains et j'interdis les exportations. Là-dessus, les milieux d'affaires de Chicago, là où se font la cotation du soja, arrivent et disent, monsieur le président, c'est absolument pas possible de faire ce genre de choses. Nous, on a des frais de dédit dans nos contrats si on ne livre pas et on est ruiné. Et Nixon se ravise et au bout de 70 heures, dit, pas d'embargo. Mais globalement, ça a créé un cataclysme. Au niveau de la communauté européenne, la commission a été interpellée et a demandé au commissaire de l'agriculture de l'époque, M. Lardinois, de faire un rapport pour voir quelle était la signification de notre dépendance aux importations. Et le rapport a constaté que nous étions importateurs de 75% de nos besoins en protéines pour l'alimentation de nos animaux à la ferme et que cette tendance ne devrait que s'accroître en raison de la spécialisation des exploitations, nous étions donc en 73, et qui allait entraîner le développement des fabricants d'aliments composés. En réalité, on a bien vu cela, le développement de l'aliment composé. Et ils ont décidé à l'époque de lancer un grand plan de production de plantes riches en protéines dans l'Union européenne à travers les productions de colza, tournesol, soja, mais aussi de pois, févrole, lupin, mais aussi de luzerne. La luzerne étant particulièrement bien visée puisqu'elle produit 2500 kg de protéines à l'hectare en moyenne.
30 ans après, à bon entendeur, salut. Alors, la déshydratation de la luzerne, comment ça marche ? Chaque éleveur de vache a donc son terrain de luzerne, Joseph Lebrun.
Alors, la luzerne, elle a sa période hivernale là où elle est en sommeil, et puis elle commence à pousser à partir début mars, gentiment, mais les premières coupes, ça démarre fin avril. À partir du 20 avril, on commence à envisager de le récolter. La première coupe dure du 20-25 avril jusqu'à fin mai, début juin. Deuxième coupe s'enchaîne aussitôt, jusque mi-juillet. Et après, on a 4 coupes dans l'année, avec des espaces entre chaque coupe qui vont de 30 à 40 jours, suivant la météo.
La luzerne est fauchée, puis sèche naturellement, étalée dans les champs, avant d'être regroupée en tas, tous les 8 mètres, qui sont eux-mêmes ramassés, direction la coopérative, pour sa déshydratation.
La luzerne, elle arrive ici en fourrage vert, c'est-à-dire telle qu'elle était fanée et récoltée, donc elle arrive ici. Si on prend ce temps-là, aujourd'hui, on est sur des taux d'humidité aux alentours de 60%. Ce qui intéresse l'éleveur, c'est de récupérer un produit stable qui se conserve dans le temps. Et pour ça, il faut lui enlever l'eau. Il se conserve bien lorsqu'il a atteint les taux de 10% d'humidité. Lorsque le produit arrive à 10% d'humidité, il est stable dans le temps. Alors, quand on dit stable dans le temps, c'est en l'espace de 12 à 18 mois, on n'a pas de variation de valeur. Donc pour enlever justement cette eau-là, on passe le fourrage dans un grand four. Et pour alimenter ce four, on y met de la biomasse. C'est un grand courant d'air chaud qui va traverser le fourrage pour lui enlever l'eau. Et la biomasse, elle est fournie en partie par nos adhérents sur notre territoire. La somme totale d'énergie qu'il nous faut pour déshydrater le fourrage de nos adhérents, on se dit plutôt que d'importer cette énergie-là au niveau mondial, c'est-à-dire Afrique du Sud, pour ce qui est du charbon aujourd'hui, on se dit si on peut produire notre énergie localement, plutôt que d'envoyer l'argent en Afrique du Sud, on la laisse sur notre territoire et on valorise le territoire, on valorise les compétences humaines, on apporte de la valeur ajoutée à notre territoire. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, aussi bien on vise l'autonomie alimentaire de nos exploitations laitières, on vise l'autonomie énergétique de la coopérative en renforçant le territoire. Une partie du combustible est fournie par nos adhérents. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des adhérents qu'on peut considérer autonomes en fourrage pour leur exploitation laitière. Et en plus, ils sont autonomes en apportant de l'énergie, de la biomasse, pour les besoins de la coopérative, pour conserver leur fourrage.
Là encore, la déshydratation par chauffage se fait en partie grâce à la biomasse. 30% de l'énergie est fournie par le Miscanthus, également fournie par les éleveurs adhérents à la coopérative.
Aujourd'hui, on a une partie de nos adhérents, donc sur la coopérative, nous exploitons 400 hectares de Miscanthus. Un hectare de Miscanthus va me déshydrater l'équivalent de 2 hectares de luzerne.
Le fourrage est un marché mondial, qui dit luzerne dit autonomie, reste une interrogation de taille. Pourquoi l'Europe n'en veut-elle pas ? Éric Guillemot.
Effectivement, 1er avril 2012, les réformes décidées à Bruxelles en 2008 s'appliquent et l'aide qui était versée aux entreprises de déshydratation afin de permettre soit de diminuer la facture de déshydratation pour des éleveurs qui reprenaient leurs produits, soit pour permettre de mieux rémunérer les agriculteurs qui livraient leur luzerne pour être ensuite vendus, ce système disparaît. C'était une aide qu'on appelait donc couplée à la production, disparaît en application de la décision du Conseil des ministres. Nous, ça nous paraît une position un peu dogmatique, hein, puisque globalement, ça ne coûte pas moins cher à Bruxelles d'avoir supprimé cette aide. Cette aide et les budgets correspondants iront donc dans la poche des agriculteurs dans ce qu'on appelle les paiements uniques. Simplement, la compétitivité et l'attractivité de la luzerne par rapport à d'autres cultures se trouvent considérablement amoindries. Moi, je veux simplement rappeler qu'en 2005, lorsque nous avons appliqué la précédente réforme de la PAC, nous avons eu 30% de surfaces de luzerne qui ont disparu. Ces surfaces de luzerne ne reviendront pas, parce que les usines en question ont fermé, ce sont des emplois à la campagne qui ont disparu et des usines qui sont vendues au prix de la ferraille. Alors que cette luzerne déshydratée participe pleinement à des objectifs environnementaux sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité. Mais en même temps, il y a un marché sur ces produits. Il y a un marché pour les éleveurs qui ont besoin de protéines parfaitement tracées. On sait d'où elles viennent, comment elles sont produites, à destination des éleveurs qui ont besoin de cette sécurisation. Donc il y a un marché. L'ensemble de la chaîne était tout à fait justifié et cohérent.
Pour Joseph Lebrun, éleveur qui fait de la luzerne depuis 30 ans, c'est une question de cohérence. En Bretagne, l'éleveur fait de la luzerne pour sa consommation personnelle ou plutôt celle de ses vaches. Pour les luzerniers de la Champagne-Ardenne, la situation n'est donc pas comparable.
Les factures de la déshydratation restent élevées. Mais il faut avoir une cohérence en luzerne. Si vous faites de la déshydratation, il ne faut pas investir dans du matériel autre, comme pour faire du foin ou de la fauche. Il faut être logique dans la méthode, parce que si vous investissez partout, c'est vrai que vous n'allez pas vous en sortir financièrement. En Bretagne, on n'a pas perdu tant que ça de surface. On est plutôt stable et même en augmentation, parce que nous sommes autoconsommants. Ils voient tout de suite l'intérêt d'avoir la luzerne et sur la santé de leurs animaux, le confort dans le travail, alors que dans la Marne, ils font de la luzerne pour le vendre. Il faut que le marché soit porteur. Et ils veulent une rentabilité sur tous les hectares. Et comme le blé est positionné très haut en matière de revenus par hectare, on est un un peu dans une société où il faut gagner à tous les coûts. La luzerne, des fois, elle a des fluctuations de revenus que les luzerniers ne supportent pas. Autrefois, les gens faisaient une moyenne de revenus pour l'ensemble de l'exploitation et acceptaient ça. Aujourd'hui, on regarde les parcelles qui ont le revenu le plus élevé et on veut que tout le monde s'aligne sur le plus haut. Le blé à 200 euros la tonne.
C'est combien ?
40, 50 euros tonne, je pense. Hein. S'ils font 40, 50 euros tonne, ils vont faire 500 euros de revenus hectare. Le blé, ils espèrent le double.
La qualité de vie des vaches, c'est important, évidemment, mais pas seulement. Franck Housset s'est réinstallé dans l'Ille-et-Vilaine de son enfance après une première vie professionnelle dans le vêtement, carrément bio. Franck Housset a 35 vaches et 7 hectares de luzerne bio, 2 paires de bras, les siens et ceux de sa femme. Voilà une petite ferme qui tourne.
Toute la production laitière est faite avec les fourrages produits sur l'exploitation. Aucun achat extérieur. Tout ceci en agriculture biologique.
Vous arrivez à être entièrement agriculteur biologique et autonome?
Oui, sans problème, grâce aux déshydratés, qui nous permettent d'avoir des rations qui tiennent la route l'hiver.
Ça fait quoi à peu près? Vos 35 vaches donnent du lait? Comment ça se passe?
Les vaches, principalement nourries avec de l'herbe de pâturage. L'hiver, on ne peut pas aller dans les prés, donc on soigne à l'auge, à base de foin, donc de bannage, et de fourrage déshydraté, luzerne, qui permet d'apporter la protéine nécessaire pour la production laitière. Dans le système bio, on est suffisant en protéines, contrairement au système plus intensif où on utilise le maïs et on corrige avec du soja. Maïs, plante énergétique, soja, azoté, protéines. Donc nous, on est autosuffisant en protéines, on corrige avec l'énergie, le maïs. Donc on cultive un petit peu de maïs pour faire cet équilibre.
Avantage du bio, une vache qui mange bio produit plus de lait qu'une vache qui mange conventionnel. Le calcul est digne de l'école élémentaire. Ces vaches alimentées en bio produisent chacune 8000 litres de lait par an. Franck a 35 vaches, cela fait 280 000 litres, revendu 28 centimes de lait le litre à Lactalis, le numéro 1 mondial du lait. Lactalis, né à Laval en 1933, à l'époque, un employé. Lactalis, le premier jour, avait fourni 33 litres de lait et 17 camemberts. Aujourd'hui, Lactalis, c'est vraiment une autre affaire. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus de l'intérêt de la luzerne déshydratée, pour s'hydrater, au contraire, eh bien c'est juste à côté. Autre affaire bretonne qui porte aussi ses fruits, le cidre Loïc Raison. C'est la porte voisine de la coopérative de déshydratation à Domagny, en Ille-et-Vilaine.
C'était un reportage réalisé par Pascal Marcaggi.